Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut à toutes et tous. Après ces premiers épisodes, il y avait un focus particulier qui me paraissait important et qui concerne un acteur de cette enquête, l'agence Frontex. On l'évoque dans le deuxième épisode du naufrage. Frontex est le garde-frontière de l'Europe et en ce printemps 2024, l'agence refait parler d'elle, notamment dans la campagne des élections européennes.
Monsieur Légéry, j'ai du mal à savoir comment vous arrivez à dormir la nuit. Est-ce que vous savez combien de personnes sont mortes en mer Méditerranée pendant que vous présidiez Frontex ?
Lors d'un débat au Parlement européen diffusé sur les chaînes de France Média Monde en avril, la tête de liste LFI Manon Aubry s'en est pris au candidat RN Fabrice Leggeri, qui est aussi l'ancien patron de cette agence Frontex.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que 300 000 personnes ont été sauvées par Frontex
25 000 personnes, monsieur Leggeri, vous avez dû démissionner de Frontex parce qu'il y a une enquête pour plusieurs raisons. Vous renvoyez des migrants mourir en mer Méditerranée. Donc, monsieur Leggeri, vous êtes non seulement un menteur, mais vous êtes aujourd'hui un criminel. Et je pense que vous devez faire face à votre responsabilité.
Depuis, deux organisations humanitaires ont aussi porté plainte contre l'ancien directeur de Frontex pour complicité de crimes contre l'humanité, notamment en Libye. Fabrice Leggeri a contesté ces accusations auprès du journal Le Monde. Tout comme dans notre enquête, le porte-parole de Frontex, Christophe Borowski, a contesté toute coopération avec les gardes-côtes libyens, plusieurs fois accusés de crimes et qui ne sont pas intervenus dans le cas du naufrage d'avril 2021 sur lequel on s'est penché dans ce podcast.
Nous ne coopérons pas avec les gardes-côtes libyens. En fait, nous ne coopérons avec aucune autorité libyenne, quelle qu'elle soit. Nous n'avons pas de cadre légal pour ça. Bien entendu, nous sommes tenus de fournir des informations à leur centre de coordination. Mais il n'y a aucune coopération. Dire que nous collaborons avec les gardes-côtes libyens, par exemple, pour traquer les bateaux, ce n'est pas l'idée.
Alors, puisque Frontex est à nouveau mise en cause au printemps 2024, après des enquêtes indépendantes comme la nôtre, comme celle d'Office Public, ou d'autres journalistes européens comme Thomas Status pour Lighthouse Reports, on va se repencher ensemble, en profitant de la présence de Thomas, sur le cas Frontex.
Il y a eu des alertes en interne sur les pushbacks. Dans Frontex, des agents ont dit « Nous avons vu les Grecs faire des pushbacks. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Il faut faire quelque chose. »
Quant à moi, je suis Sinamir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Naufrage.
Il y a un silence assourdissant autour de ces morts.
Le sujet, c'est aussi de les raccompagner. Mais les raccompagner où ?
Vous les ramenez en Libye ?
Vous avez des enfants, des femmes enceintes qui meurent devant nous. Et on s'en fout, on n'en parle pas.
On voit deux mains se lever depuis le centre de l'embarcation avec un couffin dans les bras, quoi.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas devant un phénomène qui va s'arrêter.
C'est une réalité dont on est tous coupables.
Réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables.
Ça a été un événement très malheureux. Je me souviens qu'on avait des avions sur zone et que la météo était très mauvaise, ce qui a rendu les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. Je sais que pendant que nos avions volaient, nous étions très préoccupés par la force du vent qui mettait nos équipages en danger. Mais on a quand même décidé de survoler la zone. Vous savez, nous n'avons pas de navire en mer au large de la Libye, donc on peut simplement être un relais aérien sur certaines opérations.
Salut Thomas.
Salut.
Tu es journaliste d'investigation, tu as collaboré ou collabores avec différents médias, comme Le Monde, Mediapart, Libération ou d'autres médias à but non lucratif comme Lighthouse Report ou Disclose. Je suis très content que tu viennes dans ce podcast parce que, entre autres sujets de prédilection, tu t'es concentré depuis 2020, si je dis pas de bêtises, notamment sur les activités aux frontières de l'Europe de l'agence Frontex. On vient de réentendre son porte-parole donner sa version du rôle de l'agence autour de ce naufrage d'avril 2021 qu'on a étudié dans notre podcast. Et ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, Frontex, au large de la Libye, est une vigie européenne dans les airs, que sa priorité est de sauver des vies, mais que l'agence européenne ne peut pas faire grand-chose d'autre pour empêcher les naufrages des bateaux qui traversent. Est-ce que c'est vrai? Et si tu devais résumer, toi, le rôle de Frontex sur cette partie de la Méditerranée, tu dirais quoi?
Ce qui est intéressant dans ce que dit le porte-parole de Frontex, c'est que c'est ce qu'il appelle la coopération, c'est-à-dire la collaboration entre eux et les autorités libyennes. C'est-à-dire ce que dit Christophe Borowski, effectivement, dans ce sonore que vous aviez eu, c'est que il dit les autorités de Frontex ne collaborent pas avec les Libyens. Donc le sous-texte un petit peu, c'est qu'il n'y a pas une collaboration active, il n'y a pas une collaboration volontaire, tout ça est contraint par le cadre opérationnel qui est celui de l'agence. Alors celui de Frontex, en fait, depuis le mi-temps des années 2010, effectivement, c'est de n'être qu'une vigie, effectivement, comme tu le disais, dans le ciel, c'est-à-dire, schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Frontex a des avions et des drones qui patrouillent dans ce qu'on appelle la Méditerranée centrale, qui est cet espace entre Lampedusa et les côtes libyennes, donc Lampedusa, l'île italienne la plus proche de l'Afrique, qui est un lieu de débarquement assez prisé par les migrants et les demandeurs d'asile qui traversent. Et donc Frontex regarde s'il y a des bateaux en détresse et en avise les autorités compétentes dans le secteur qui, depuis des années, sont les gardes-côtes libyens. Donc de ce fait, on peut dire qu'il y a une forme de coopération. Il se trouve que Frontex s'abrite derrière le droit de la mer en disant que ces bateaux sont en détresse et que donc ils doivent être sauvés. Et donc, les activités de Frontex, c'est de permettre ce sauvetage, mais qui sont aussi de fait des interceptions, puisque les autorités libyennes vont chercher les migrants, les ramènent en Libye, dans les conditions qu'on connaît d'incarcération, etc. Sur ta question de savoir est-ce qu'ils peuvent faire autrement, la réponse, elle est assez simple. Ils ont fait autrement dans le temps. C'est-à-dire, il y avait des bateaux de Frontex qui patrouillaient. Alors, le mandat de l'agence est un peu plus large que souvent de faire du sauvetage en mer. Il a aussi compétence pour lutte contre les trafics, que ce soit des trafics d'êtres humains, des trafics de biens aussi, effectivement, contrebande, etc., etc. Et les bateaux de Frontex intervenaient dans ce cadre-là en Méditerranée centrale. Il y a deux mandats, en fait, dans l'agence de Frontex. C'est de garder les frontières, mais de garder aussi les gens, préserver leur intégrité. Et donc, ils sont été amenés à intervenir. Ils ne l'ont plus fait. Et c'est à partir de là qu'on a vu se dérouler effectivement les incidents que vous détaillez dans l'affaire assez brillamment. C'est que il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire ils voient des choses, ils avisent des autorités, ils sauvent les gens, mais ils les renvoient aussi vers des traitements que l'on connaît grâce aux travaux de plusieurs journalistes sur les conditions dans les centres de rétention en Libye.
Au final, ce qu'on voit là, c'est que lorsque le centre de coordination des secours de Tripoli qui doit intervenir sur cette zone de sauvetage libyenne qui est apparue en 2017-2018, et on en a parlé dans le podcast, n'active pas les secours, eux ne le font pas non plus. Donc, au final, est-ce que c'est de la non-assistance? Est-ce que c'est une volonté de se borner simplement au cadre légal?
Non, je pense que c'est pas du tout une position confortable pour Frontex. Alors, eux s'abritent derrière plusieurs choses. Ils s'abritent déjà derrière leur mandat. Ils disent, nous, et c'est vrai, nous ne sommes pas un État membre, ce n'est pas notre responsabilité de dire si ce bateau est en détresse et s'il mérite sauvetage. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne des alertes sur ce qu'on estime être des cas préoccupants. Après, la particularité, pour revenir effectivement au naufrage dont on vous parliez, Frontex a la possibilité d'émettre ce qu'ils appellent des médérelais, c'est-à-dire de dire ce bateau n'est pas en capacité d'appeler à l'aide parce que c'est une petite embarcation qui n'a pas de moyens radio, etc. Nous, agence Frontex de l'immigration et de garde-côte et de garde-frontière, nous sonnons l'alerte au nom de ce bateau-là qui ne peut pas le faire, et nous appelons les secours à le faire. Il se trouve que c'est un moyen qu'ils utilisent avec parcimonie et qu'ils n'utilisent pas forcément tout le temps. Et dans le cadre du naufrage dont vous parlez, il me semble que cette alerte a mis plusieurs heures à arriver. Donc c'est bien la preuve aussi qu'ils peuvent faire autrement. Je dirais pas que c'est un mandat facile et je pense pas qu'il y ait une forme de confort. Je pense qu'il y a une auto-préservation de l'agence, effectivement, de se borner à cette compétence-là. Parce que collaborer avec les autorités libyennes est quelque chose de complètement indicible et de complètement inacceptable. Et ils en sont conscients et c'est aussi quelque chose d'illégal. Techniquement, Frontex n'a pas le droit de bosser avec les Libyens hors de ce cadre du sauvetage. Ils n'ont pas le droit de parler avec eux, tout simplement parce que ce n'est pas un État membre et ce n'est pas reconnu comme un État sûr.
Et pourtant, C'est à eux, et c'est à cette force de garde-côte, que l'Europe a délégué la gestion de cette zone, a donné des moyens pour intercepter, sauver, parfois, on va pas s'entendre sur les termes si derrière on ne détermine pas que la Libye n'est pas un pays sûr, voilà. Mais bon, en tout cas, intercepter les embarcations qui partent.
Tout ça est un peu un jeu de dupes, en fait, si tu veux. En fait, il faut nommer les choses pour comprendre l'ampleur, effectivement, de cette espèce de jeu de miroir et d'ombre et d'illusion. Qu'est-ce qu'est un centre de sauvetage? Ce qu'on appelle un MRCC en France, ça s'appelle un CROSS, donc le Centre Régional d'Opération et de Sauvetage. Donc, il y en a un, par exemple, au CROSS Grinet, qui est en charge de la Manche. Il y en a dans toutes les régions. Un centre de sauvetage, c'est un endroit où il y a des marins qui, effectivement, reçoivent des appels et retransmettent les affaires de détresse de bateaux ou les situations inquiétantes dont certaines personnes, certains acteurs de la mer sont témoins. Ça peut être des pêcheurs, ça peut être des cargos. Ça peut être des plateformes pétrolières. Il y a beaucoup de plateformes pétrolières au large de la Libye, par exemple. Donc, ils reçoivent ces appels, ils les transmettent aux autorités compétentes. En France, par exemple, il n'y a pas de garde-côte. En France, on a tout un tas de corps, effectivement, différents. Il se trouve qu'en Libye, il y a ce qu'on appelle les garde-côtes libyens. Mais ces garde-côtes sont aussi les gens qui sont parfois de quart au centre de coopération et de sauvetage, puisque ce sont des marins qui interviennent dans le sauvetage. Donc, l'idée qu'il y ait une étanchéité forte entre ce centre de sauvetage, celle que le raconte notre ami de porte-parole de Frontex, et les garde-côtes est complètement fausse. Ils ont, en fait, une casquette différente en fonction du jour de la semaine. Donc, effectivement, et ce qui est important de souligner, c'est que l'Europe a délégué effectivement cette compétence à la Libye en leur fournissant des bateaux. Les Italiens leur fournissent des bateaux, l'Europe leur fournisse des formations. Et avec Frontex, on leur permet d'être opérationnels. Tout ça pour une seule et bonne raison, c'est qu'on veut qu'ils sauvent les gens. Je pense pas, moi, qu'il y ait une volonté européenne. Je suis pas sûr de suivre, par exemple, la ligne de deux avocats, Juan Branco et Omer Chas, qui ont porté plainte devant la Cour pénale internationale pour complicité de crimes contre l'humanité, en sous-entendant que l'Union européenne a volontairement laissé des gens se noyer pour les dissuader de traverser. Je suis pas sûr que, voilà, ce soit le cadre le plus juste. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que l'Europe a fait ça pour une seule et simple raison. C'est pour que, effectivement, les Libyens les sauvent, mais les Libyens les ramènent, parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent sur les côtes européennes. Et tout ça est lié, en fait. Tout ça est le même mouvement. C'est la même chose. Donc, quand Chris Bobrovsky dit « on sauve les gens », évidemment qu'on les intercepte. C'est le même mouvement. C'est ça le but. Et c'est ça qui a été le but depuis le départ de cette politique d'externalisation des frontières de l'Union européenne.
Nous ne coopérons pas avec les gardes-côtes libyens. En fait, nous ne coopérons avec aucune autorité libyenne, quelle qu'elle soit. Nous n'avons pas de cadre légal pour ça. Bien entendu, nous sommes tenus de fournir des informations à leur centre de coordination. Donc, dès que nous trouvons des embarcations en détresse, nous alertons les autorités libyennes.
Toi, tu as commencé à travailler quand sur Frontex et sur les activités de l'agence aux frontières extérieures de l'Europe?
Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur les questions migratoires tout au début de ma carrière. À vrai dire, j'ai bossé beaucoup sur Calais, sur la Grèce et tout. Pour ce qui est du volet Frontex, moi, j'ai commencé peu ou prou à la fin de l'année 2020. La situation était à l'époque assez agitée. Mes camarades et collègues de Lighthouse Report, avec qui je travaillais déjà un petit peu, mais j'étais à l'époque salarié de Libération, avaient sorti une première enquête en octobre-novembre 2020, si je me trompe pas. C'était avec le journal Spiegel, avec le site spécialisé dans tout ce qui est open source qui s'appelle Bellingcat, qui est un média anglo-saxon. Ils avaient sorti les premiers éléments de preuve, on va dire, sur la connaissance qu'avait Frontex et la complicité de l'agence, dans des cas, on va dire, de refoulement en mer, mais là, pour le coup, dans un contexte gréco-turc, donc à la frontière entre la Grèce et la Turquie dans la mer Égée. Donc, c'est des choses dont on parlera peut-être plus tard, c'est comment les Grecs, en fait, repoussent inlassablement les réfugiés qui arrivent sur leurs côtes et les laissent en mer dans des petits canaux de sauvetage. Bon, bref, on en reviendra. Et cette enquête-là avait déclenché tout un enchaînement, on va dire, administratif et judiciaire, où en fait, une autorité qui s'appelle l'OLAF, qui est le gendarme européen anti-fraude, finalement, avait lancé une enquête sur Frontex. Et l'agence qui est installée à Varsovie avait été perquisitionnée, dont le bureau du directeur qu'on a entendu parler dans l'introduction, qui s'appelle Fabrice Légéré. Et donc, c'est dans ce contexte-là, moi, que j'ai commencé à bosser sur Frontex, plus particulièrement, on va dire, sur l'objet de l'enquête judiciaire, dans un style relativement classique du journalisme d'enquête français, c'est-à-dire bosser sur les enquêtes des policiers en cours sur une personne ou un sujet.
Donc là, dans le cadre de ces refoulements illégaux, qu'on appelle aussi pushback en anglais, et qui font polémique parce qu'on voit qu'il y a des États membres, des forces policières de garde-côte de ces États membres, et notamment les Grecs, qui refoulent des personnes qui arrivent sur le territoire de l'Europe sans examiner leur demande d'asile. C'est ça ?
C'est exactement ça. Donc le schéma en Grèce et en Turquie est un peu différent, hein, pour revenir un petit peu sur toutes les choses qui sont importantes, ceci dit, pour comprendre la situation. Donc, entre la Grèce et la Turquie, il y a une espèce de poussière d'îles. Il y a beaucoup d'îles, en fait, sur cette frontière, qui est d'ailleurs une frontière assez contestée, puisque les relations diplomatiques entre la Grèce et la Turquie sont pas bonnes. Il n'y a pas d'eau internationale. Donc, on passe du territoire turc au territoire grec.
Contrairement à la Libye et l'Italie dont on parlait avant, où il y a 300 kilomètres entre ces deux bouts de terre, là, on a quelques dizaines de kilomètres avec des îles au milieu, c'est ça que tu dis ?
Exactement. Donc, c'est effectivement très, très proche. Et le schéma qui est celui depuis des années, c'est que des petites embarcations partent de la côte turque pour arriver sur des îles grecques. Et le but, quand on est demandeur d'asile, c'est d'arriver, de demander l'asile, de formellement prouver qu'on était sur ces îles. Pourquoi on fait ça ? Et ça a été documenté par tout un tas de gens, dont nous, mais il y a eu une vidéo publiée par le New York Times il y a à peu près un an qui est très parlante. Ce que font les Grecs et ce qui est dénoncé depuis des années, c'est qu'ils arrêtent les gens, ils les mettent dans des bateaux et dans des petits canots de sauvetage, ils les repoussent du côté turc. Ils font ça inlassablement, c'est-à-dire qu'ils font ça toutes les semaines. Et c'est quelque chose qui est documenté, qui est connu, que les Grecs disent « on ne sait pas qui sont ces gens qui mettent les gens dans des canots, c'est bizarre, c'est pas nous ».
Alors juste, s'ils font ce jeu de dupes, c'est parce que ça va contre les conventions internationales, la convention de Genève, la charte des droits de l'homme, et plusieurs textes internationaux qui garantissent la demande d'asile, le droit à l'asile pour les personnes qui y prétendent.
Évidemment, et même tu es tendre avec les garde-côtes grecs, c'est même de la mise en danger de la vie d'autrui, je veux dire, c'est même des poursuites criminelles qui pourraient être engagées, puisque laisser quelqu'un dans un bateau en pleine mer, c'est une mise en danger évidente de la vie d'autrui, donc là, c'est des poursuites criminelles. Bon, bref, passons. Alors, il y avait tout un tas de questions qui étaient posées par ce gendarme anti-fraude, donc qui s'appelle l'OLAF, quant à la mandature de Fabrice Légérie, qui est arrivé à la tête de Frontex en 2014. Mais ce qui a déclenché l'ouverture de l'enquête, c'est 1. La connaissance de Frontex des activités de la Grèce. 2. Est-ce que l'agence participait formellement à ces renvois ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle engageait des moyens, etc. Et 3. Est-ce que, en fait, d'une certaine manière, la direction avait couvert ces agissements ? Et si oui, pourquoi ? Et donc, c'est à partir de là que se déclenche une méga enquête au sein de l'agence de Frontex. Donc, il faut imaginer un bâtiment tout de vert en plein centre de Varsovie avec 700 agents qui viennent de tous les États membres, effectivement. Donc, c'est un peu une espèce de colonie européenne où tout le monde parle différentes langues, où c'est un peu Dallas aussi, Frontex, il faut raconter, avec des enjeux de pouvoir, etc. Avec cette direction française qui chancelle à la fin de l'année 2020. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte sur quoi l'enquête s'est ouverte et on racontera ensuite la chute de cette mandature française qui a duré à la tête de Frontex pendant quasiment 7 ans.
Et il y a notamment ce moment, au début de cette enquête en décembre, où le patron de l'agence Frontex est auditionné par une commission au Parlement européen et va dire « Nous, ces refoulements, ces pushbacks, on n'y participe pas au sein de Frontex ».
We have not found evidence that there were active, direct or indirect participation of Frontex staff or officers deployed by Frontex in pushbacks during either Poseidon or Rapid Border Intervention Agent.
And je pense que parfois nous, en tant que journalistes d'investigation, il faut prêter attention aux mots de la communication politique. La Fabrice Légérie dit des choses extrêmement précises. Il dit pas de participation directe ou indirecte des staffs de Frontex ou des agents déployés. Donc, et on va voir qu'effectivement, il y a une participation de l'agence. D'une certaine manière, il ment par omission, c'est-à-dire il dit pas les choses dans leur totalité, c'est-à-dire il dit une réponse qui est acceptable à ce moment-là, à ce moment de connaissance qu'on a de la situation à Frontex. Ce qu'on fait dans les suites, effectivement, c'est qu'on comme dans tout cas d'enquête un peu longue et prolongée, on a tout un tas de pistes, effectivement, qui consistent à la fois à suivre, on va dire, le développement de l'enquête de l'OLAF, mais aussi on a fait un travail un peu plus systématique à partir d'un fichier à l'époque qu'on a récupéré qui s'appelle le fichier Jora. Alors le fichier Jora, pour les gens qui ne sont pas des nerds de Frontex comme nous. C'est en gros, on va dire, un espèce de tableur Excel énorme dans lequel Frontex consigne tout ce qu'ils appellent les incidents, c'est-à-dire tous les opérations ou les informations qu'ils reçoivent de la part des États membres. Il faut imaginer donc que Frontex est une forme de... Bon, et qu'on a dit une force de garde-côte, mais c'est aussi un endroit où sont centralisés tout ce qui se passe aux frontières. Et donc, de fait, les États membres de l'Union européenne sont obligés de faire remonter tout ce qui se passe. Donc, techniquement et prosaïquement, à chaque fois qu'il y a une tentative de traverser, par exemple, entre la Turquie et la Grèce, il y a un agent grec qui est censé dire à Frontex, bon, tel jour à telle heure, il y a tel petit bateau qui a essayé de traverser, mais on l'a appréhendé, etc., etc. Et ce fichier, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Frontex blanchissait, en quelque sorte, ses pushbacks. Donc, on en revient à la participation directe ou indirecte. Ce qui était des pushbacks, c'est-à-dire qu'on avait réussi à documenter comme des refoulements, donc encore une fois, la chaîne de responsabilité qu'on décrit, donc les Grecs qui prennent les gens, qui les mettent dans un petit canot et qui les repoussent, étaient enregistrés au sein de cet outil qui est l'outil de reporting interne de Frontex, comme ce qu'ils appellent des préventions au départ. Et ce qu'on appelle techniquement en gestion des frontières une prévention au départ, c'est quelqu'un a essayé de prendre le bateau et de partir, mais on l'a empêché, on l'a arrêté juste avant. Et donc, on se rendait compte que, évidemment, Fabrice Leggeri disait qu'il n'y avait pas de participation et que ces refoulements étaient quelque chose de totalement inconnu pour lui, puisque dans son propre outil de reporting interne, ces opérations de refoulement illégal, comme tu le disais, étaient enregistrées d'une toute autre manière. Donc, c'était toute la chaîne, en fait, même d'information au sein de l'agence, qui était complètement contaminée, on va dire, par la version, effectivement, des gardes-côtes grecs et des autorités grecques qui étaient... Tout ça n'existe pas, nous ne refoulons personne, nous sommes sous la menace des Turcs depuis des années et nous sommes paralysés par les gauchistes, les droits de l'hommistes, les associations qui nous empêchent effectivement de protéger la terre grecque contre cette invasion. Voilà.
Il y a des cas concrets que vous avez documentés justement pour voir ces conflits entre ce qui est reporté dans ce fameux fichier et la façon dont ces embarcations ont réussi à atteindre la Grèce et ont été renvoyées à la mer.
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de cela, dans ce fichier qu'on a obtenu grâce à une procédure de droit à l'information, donc que chaque citoyen a le droit de contacter en particulier les autorités européennes pour leur demander de révéler certains documents qu'ils trouveraient intéressants. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des dates, des heures, des coordonnées, parfois des descriptions, donc le bateau, il y avait tant de personnes à bord, etc., des heures. Et donc tout ça nous a permis de croiser, à partir des documents et des preuves qui avaient déjà été publiées, tant par des associations de sauvetage que par d'ailleurs les autorités turques, dans un exercice de déstabilisation des Grecs, puisqu'il y a un jeu diplomatique entre les deux, évidemment, dont on n'était pas dupes. Mais tout ça nous permettait de raconter que derrière ces lignes et ces catégories, la réalité était un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire que ce qu'ils appelaient une prévention au départ, on avait des photos d'un groupe, effectivement, sur les îles grecques. Et puis, on avait une photo du bateau du côté turc, quelques heures après. Donc, on voyait que les gens, effectivement, étaient arrivés en Grèce, puis ils avaient été mis dans un petit bateau de sauvetage. Et malgré tout ça, c'était enregistré sous l'appellation très neutre et très respectueuse, effectivement, du mandat de Frontex, prévention au départ. Et ça, on l'a documenté dans plusieurs cas. De mémoire, je pense qu'il y a une dizaine, à peu près. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. C'est juste qu'on est limité par ce qu'on a pu faire.
Ça veut dire que sur 2020-2021, la période que vous avez regardée, je crois que j'ai repris un peu les papiers de l'époque, vous avez documenté 957 personnes qui auraient fait l'objet d'un renvoi après avoir atteint donc les côtes européennes et auraient été remis à la mer au milieu de l'eau en espérant que les autorités turques les récupèrent en fait et les renvoient en Turquie.
C'est exactement. C'est-à-dire qu'on a réussi à documenter avec un niveau de certitude assez élevé, effectivement, un nombre significatif de renvois de la part des Grecs dans les eaux turques qui étaient enregistrés d'une mauvaise manière dans le fichier interne de Frontex.
Donc on a parlé de potentielles violations des droits de l'homme dans ce cas et de crimes potentiels quand on renvoie ces gens à la mer sans moteur, sans rame, au milieu de l'eau en misant sur le fait que les Turcs vont venir les récupérer, de complicité de potentiel de crimes contre l'humanité en Libye en travaillant avec des gardes-côtes qui sont accusés de crimes et dans un pays qui n'est pas reconnu comme sûr. C'est quoi la mission de l'agence européenne en fait à la base pour qu'on en soit arrivé à là? On imagine qu'elle n'a pas été créée pour ça quand elle commence en 2004.
Frontex est la contraction de frontières extérieures. C'est un legs de la part des Français à l'Agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières. Initialement, c'est plutôt une agence d'analystes. C'est plutôt une agence qui est censée produire du savoir policier, effectivement, et administratif, hein, sur la question des frontières extérieures de l'Union européenne. Et c'est une agence qui a vu son mandat, je dirais pas profondément changé, mais évolué au fil des années. En particulier, il faut se rappeler ce qui se passe en 2014. 2014-2015, c'est ce qu'on appelle la première occurrence de ce qu'on appelle la crise migratoire, avec quelque chose de très spécifique qui se passe à ce moment-là, qui est que Angela Merkel décide de ne pas appliquer le règlement de Dublin, qui est un règlement européen qui fait du premier pays que traverse un demandeur d'asile, ce pays sera responsable de sa demande d'asile. Ça veut dire que si vous êtes Syrien et que vous avez traversé la Grèce avant de vouloir revenir en Allemagne, techniquement, vous devez être enregistré comme réfugié en Grèce.
Mais elle ouvre ses portes et ouvre les portes de l'Allemagne à ses réfugiés.
C'est ça. Angela Merkel ouvre les portes de dit « je n'appliquerai pas ce règlement-là » et donc il y a un afflux dans ce qu'on appelle le corridor gréco-allemand. En fait, effectivement, il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent en Allemagne. Se déclenche à ce moment-là une réflexion dans les plus hautes instances européennes de comment gérer la crise migratoire au mieux. Et c'est à cette époque-là que Fabrice Leggeri arrive à la tête de l'agence, soutenue à l'époque par le gouvernement français socialiste, en disant il faut qu'on monte en charge et en puissance au sein de Frontex pour que ça devienne une vraie agence opérationnelle qui permette de contrôler les frontières extérieures. Et c'est à partir de ce moment-là que le dessin apparaît que Frontex ne soit plus une agence d'analyste, mais une agence opérationnelle. Ça va s'incarner dans plusieurs choses qui sont toujours en cours. C'est que Frontex est techniquement censé être la première agence européenne à être dotée d'agents dédiés, d'agents de police, d'agents de garde-frontières, avec un uniforme européen, le port d'armes, etc., qui pourrait être déployé au sein de tous les pays de l'Union européenne. Et c'est ce mandat-là, tout en respectant les droits de l'homme, hein, évidemment, toujours, mais c'est ce mandat-là que Fabrice Leggeri est censé réaliser quand il arrive à la tête de l'agence. Créer cette petite coquille de noix un peu boudée, on va pas dire le contraire de la part des fonctionnaires européens, en une espèce de super agence qui aura pour but de contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, dotée d'un budget quasiment d'1 milliard d'euros. Voilà.
Alors qu'au départ, à sa création, il est de 6 millions d'euros et que c'est une toute petite agence, je rappelle juste qu'il y a 42 000 kilomètres de côtes autour de l'Europe à sécuriser, 9 000 kilomètres de frontières terrestres. Et donc là, le but, c'est de créer les remparts, petit à petit, au moment de ce pic de cette crise migratoire, et d'être dans ce qu'on j'ai appelé tout à l'heure la schizophrénie un petit peu du rôle de Frontex, c'est-à-dire à la fois donc ce garde-frontière qui dit on ne passe pas et ce garde-côte sur ces 42 000 kilomètres de côte qui doit aller sauver les gens en détresse à la mer. Fabrice Leggeri, il incarne ça un peu, cette schizophrénie, ce virage, son époque en tout cas, sans parler de lui directement, hein, mais...
Fabrice Leggeri, à vrai dire, il n'a pas fait beaucoup de schizophrénie. Fabrice Leggeri, il a rempli effectivement son... Fabrice Leggeri, il faut aussi peut-être raconter un petit peu qui il est, d'où il vient. Donc Fabrice Leggeri, c'est un énarque, dans la pure tradition des élites françaises, quelqu'un qui est trilingue, qui parle parfaitement allemand, parfaitement anglais, bon, parfaitement français, évidemment, c'est sa langue maternelle. C'est quelqu'un qui est passé par le ministère de l'Intérieur, plutôt un très bon technicien, hein, du droit des étrangers. Il est passé à ce qu'on appelle la Direction Générale des Étrangers en France, qui n'est pas quelque chose qui est connu du grand public, mais on va dire c'est la division chargée des frontières, de toutes ces questions d'expulsion au sein du ministère de l'Intérieur. Donc c'est plutôt des techniciens. Il a été dépêché à l'Union européenne, à la délégation de l'Union européenne, qui est d'une certaine manière l'ambassade française à Bruxelles, auprès des institutions européennes. Puis il a travaillé au ministère des Armées. Bon, bref. Il arrive à la tête de Frontex en incarnant, effectivement, comme tu disais, cette espèce de deux poids, deux mesures, etc., etc. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il est nommé en plus par un gouvernement socialiste. Il se voit affublé d'un directeur de cabinet qui est décrit en fait un petit peu comme son bras armé, celui qui l'aide à accomplir ses tâches quotidiennes, qui s'appelle Thibaut de La Haye-Jousselin et qui lui a un tout autre parcours politique. Thibaut de La Haye-Jousselin, il est un peu le produit de ce que la droite française a produit de plus dur en matière d'immigration, hormis le RN, à savoir la mandature notamment de Brice Hortefeux, mais aussi d'un monsieur qui est très important pour la droite française, pour la pensée sur l'immigration, qui s'appelle Patrick Stefanini. Patrick Stefanini était l'architecte du ministère de l'Identité nationale et de l'immigration sous Nicolas Sarkozy. C'est un excellent technicien qui connaît très bien les chiffres, mais qui se caractérise par ses positions très dures sur l'immigration. Donc il faut imaginer à la tête de Frontex cet attelage un peu bizarre entre quelqu'un nommé par un gouvernement socialiste et quelqu'un qui incarne la frange la plus dure en matière d'immigration. Et donc ces deux-là sont à la tête de l'agence. Et pour revenir sur l'enquête de l'OLAF, donc du gendarme européen qui enquête là-dessus, ce qui documente dans des, de manière assez précise, c'est un, quelque chose qu'on a raconté à l'époque avec Le Monde et le journal Der Spiegel, c'est que finalement, ces deux-là se prennent au jeu, se disent « Waouh, on est à la tête de cette agence de 10 000 hommes, très puissante, etc. » Et ils se mettent en tête que leur mandat n'est pas de sauver les gens, mais c'est uniquement de protéger les frontières de l'Union européenne. C'est ce basculement que raconte l'OLAF, c'est-à-dire comment ces deux fonctionnaires européens, hors de tout cadre, se mettent à se dire « Voilà, telle est notre mission et nous allons la remplir. » Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là.
Elle conclut quoi, l'enquête de l'OLAF, finalement, qui est livrée en 2022?
Elle conclut des choses assez dramatiques, à vrai dire, pour la direction de l'époque. Elle conclut d'abord qu'il y a eu des alertes en interne sur les pushbacks. Dans Frontex, des agents ont dit « Nous avons vu les Grecs faire des pushbacks. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Il faut faire quelque chose. » C'est la conclusion une. Ils ont fait remonter ça à la tête de l'agence. Ni Fabrice Nigéry, ni le cabinet n'ont répondu. Ils n'ont rien fait, en fait. Ils ont couvert d'une certaine manière en disant « Les Grecs sont les autorités compétentes en les matières, nous ne sommes là qu'en appui », ce qui techniquement est vrai. Encore une fois, on revient à la question du mandat et voilà. Mais ils ont couvert les agissements des Grecs. C'est la première conclusion qu'ils prennent. La deuxième conclusion qu'ils prennent, c'est que contrairement à ce que dit Fabrice Leggeri, certains des bateaux qui ont perpétré ces pushbacks étaient financés par Frontex. C'est-à-dire que Frontex, à l'époque, n'avait pas de moyens dédiés, donc il n'y avait pas de bateau, pas d'avion. En revanche, il donnait parfois du personnel, et puis il finançait parfois certaines activités. Ces activités, de mémoire, je crois que c'est six bateaux qui ont perpétré des pushbacks, sont financés directement par Frontex. C'est la deuxième conclusion. Et par rapport au système de reporting dont on parlait, ils se sont rendus compte que les agents de Frontex subissaient des pressions de la part des autorités grecques sur la manière dont ils ont de qualifier ce dont ils sont les témoins. C'est-à-dire que, plus précisément, les Grecs leur disent « Il ne faut pas que vous écriviez ça dans vos comptes rendus. Parce qu'on ne veut pas, et parce que c'est nous qui vous accueillons sur le territoire grec, et donc vous devez le faire comme nous vous disons de le faire. » Et ces trois éléments-là sont assez destructeurs, finalement, pour Fabrice Leggeri. Puisque l'enquête de l'OLAF qualifie qu'il ne s'est pas montré... Il a menti en quelque sorte aux autorités européennes. C'est quelque chose de très grave. Bon, j'entre pas dans les détails. L'enquête de l'OLAF est pleine parce qu'ils ont évidemment ils ont pris son ordinateur. Ils ont pris l'ordinateur de Fabrice Leggeri et de tous les trois personnes qui sont poursuivies, mais aussi leur téléphone. Donc il y a des échanges de textos qui sont absolument cataclysmiques où on sent encore une fois l'orientation politique qui deviendra celle de Fabrice Leggeri plus assumée puisqu'il est numéro 3 sur la tige du Rassemblement National. S'en prenant droit de l'homiste, en qualifiant la chargée des droits fondamentaux au sein de l'agence Frontex de Pol Pot. Enfin, on sent une tonalité effectivement très dure, on va dire, sur ces questions-là, qui encore une fois n'est pas le mandat qui lui avait été confié au début.
Et donc finalement, la conséquence, c'est que le 29 avril 2022, Fabrice Leggeri finalement démissionne.
Fabrice Leggeri démissionne effectivement le 29 avril 2022 et il démissionne pour une simple et bonne raison. C'est que, bon, ça c'est pour la petite histoire, c'est que Fabrice Leggeri raconte qu'il a démissionné un peu dans un acte héroïque, je suis parti parce que je n'étais plus en capacité d'assumer mes fonctions. Non, Fabrice Leggeri démissionne parce que la question de savoir s'il devait y avoir des poursuites disciplinaires et s'il devait être démis de ses fonctions était mise aux voix lors d'un conseil d'administration extraordinaire de l'agence. Il s'est rendu compte qu'il allait perdre le vote. Parce que la France l'a lâché. La France, en fait, à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le président de la République, et aussi probablement les autorités en charge de l'Union européenne, à l'époque, c'était Clément Beaune, ont décidé, basta, quoi. On arrête les frais, donc lui, on le soutient plus.
Et c'était trop gênant pour la France. C'est le visage, en fait, que la France ne veut pas assumer, potentiellement, en tout cas, d'une Europe forteresse, ne veut pas rentrer, à ce moment-là, l'exécutif ne veut pas rentrer dans ce débat-là.
Je pense qu'il devient trop gênant aussi et surtout parce que les affaires judiciaires s'amoncellent, les accusations de pushback avec la responsabilité qui est la sienne sont de plus en plus répétées. Et donc, c'est effectivement un coup politique. Je pense que les autorités françaises ne sont pas prêts d'assumer. Après, je pense qu'il y avait aussi des histoires interpersonnelles. Je pense que Fabrice Leggeri aussi, il faut jamais sous-estimer ça dans les histoires politiques, c'est aussi des histoires d'êtres humains. Je pense qu'ils s'entendaient pas très bien avec les autres, et c'est un peu ce qu'on nous avait raconté à l'époque, c'est qu'il y avait aussi une antipathie réciproque. Voilà. Et donc, il risque de perdre ce vote, et donc il démissionne, il part.
Et il dit dans une interview au JDD dans les jours qui suivent, le rapport de l'OLAF, donc du gendarme antifraude européen dont on parle depuis tout à l'heure, met l'accent sur la surveillance des droits fondamentaux au détriment de la mission de protection des frontières. Donc, il conclut ce dont tu parlais, c'est-à-dire que pour lui, la mission de Frontex, elle est au détriment parfois des droits fondamentaux de protéger les frontières coûte que coûte.
Je pense que c'est ce qu'il dit, oui. C'est sa stratégie de défense. Et ça a été sa stratégie de défense depuis le départ, à vrai dire. Et je pense que c'est la seule qui est acceptable aujourd'hui pour lui. Je pense pas qu'il puisse dire autre chose, à vrai dire. Puisque, en fait, c'est quand même assez clair ce qui s'est passé. Il y a eu une dérive de l'agence. Pour revenir sur la question des droits fondamentaux, juste pour la précision, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une forme de contre-pouvoir au sein de l'agence. Donc, il y a Frontex qui garde les frontières, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont chargés de vérifier que l'action de l'agence est conforme à la dignité humaine. Donc, il est censé d'avoir les deux. Sauf que pendant le mandat de Fabrice Leggeri, il n'a jamais engagé les gens qui étaient censés contrôler le respect des droits de l'homme au sein de Frontex. Et c'était d'ailleurs un reproche qu'on lui faisait. Donc, très bêtement, il a jamais publié la fiche de poste des gens qui étaient censés contrôler les droits de l'homme. Il a pas fait ça pendant des années. Donc, il le faisait exprès. La Commission européenne lui disait, c'est pas bien, il faut que tu le fasses. Il se refusait à le faire. Je veux dire, il faut imaginer tout ça. C'est-à-dire que quand il dit, ils mettent l'accent sur les droits de l'homme plutôt que sur la surveillance de frontières, d'une certaine manière, c'est un peu le contrepoint de son mandat. Lui, il n'a mis que l'accent sur le contrôle des frontières, rien sur les droits de l'homme. Donc tout ça, il faut un peu décrypter pour voir que oui, c'est un essai de communication de la part de Fabrice Leggeri.
Et il dit derrière, je crois que cette agence est aujourd'hui en danger. C'est quoi l'avenir de Frontex aujourd'hui?
Je pense que les hommes changent, la politique reste. Je veux dire, Fabrice Leggeri est parti. La plupart des gens qui formaient à l'époque sa garde rapprochée sont partis aussi. Aujourd'hui, l'agence est dirigée par Hans Lettiens, qui est un Néerlandais, qui est l'ancien patron de la gendarmerie néerlandaise. En soi, l'agence fait ni plus ni moins que ce qu'elle faisait à l'époque de Fabrice Leggeri. Le futur de Frontex, c'est de contrôler les frontières de l'Union européenne. Je veux dire, ils sont déployés. Il y a eu un déploiement important d'agents au moment de la crise dans les pays baltes, et effectivement en Pologne, vis-à-vis de ce qui s'est passé en Ukraine. Frontex est toujours déployé en Méditerranée centrale. Je veux dire, c'est business as usual. Je veux dire, tout ça a effectivement ébranlé peut-être l'agence qui a été secouée. Mais en ça, le mandat n'a pas fondamentalement changé. Il est toujours le même, avec toujours les mêmes pratiques qu'on documente.
Et toujours plus de moyens, puisque c'est l'agence la plus riche de l'Union européenne, avec près d'un milliard de budget, ce que tu rappelais tout à l'heure, et 10 000 membres à terme en 2027, selon la feuille de route qui lui a été donnée. Merci beaucoup Thomas.
Merci.
D'être venu en studio pour nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'agence Frontex et les enquêtes et investigations qui entourent ses activités. Je rappelle que tu es journaliste notamment pour le média collaboratif Lighthouse Reports, qui a participé comme Le Monde en France ou Le Spiegel en Allemagne à de nombreuses révélations sur le sujet. Merci à toute la team Paradiso Media qui a préparé ce nouvel épisode du Naufrage, Marek Panchaud à la Réal avec Léa Varin et Caroline Allaire. Et nous, on se dit à très vite dans l'affaire.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.